9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Demain lundi, les écoles rouvrent. Le gouvernement prévoit un début de retour à la vie normale au mois de mai. À chaque tournant dans l'histoire de la pandémie, j'appelle à la rescousse Antoine Flahault, le directeur de l'Institut de Santé Globale à l'Université de Genève. Depuis le premier confinement, il est la meilleure des vigies. Il ne vous induit jamais en erreur. En plus, il vient de publier son premier livre, Covid, Le bal masqué, aux éditions Dunod. Je recevrai ensuite Iris Bray, elle est docteur, elle aussi, mais en études cinématographiques. Elle aussi publie un livre important, Le regard féminin, qui révolutionne notre manière de regarder les films et les séries et la façon de les réaliser. Et je vous invite à retrouver en fin d'émission le grand historien Marc Ferraud, qui vient de nous quitter à l'âge de 96 ans. Je l'ai interviewé sur Europe 1 pour la dernière fois en 1996. Il avait parlé de la colonisation comme personne. Bonjour Antoine Flahault.
Bonjour.
Le Covid-19 progresse partout dans le monde. Le record de nouveaux cas a été battu la semaine dernière. 16 mois après le début de la pandémie, alors que nous disposons de moyens de contrôle efficaces, il y a de quoi s'étonner. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous ?
On a affaire à un virus extrêmement agressif, extrêmement sournois, parce que dans un très grand nombre de cas, ça se passe bien pour tous les patients qui en sont infectés, mais il peut être d'une dangerosité extrême et d'une contagiosité extrême. Et même lorsque l'on voit des pays comme l'Inde, où par exemple il y a eu un grand nombre de cas qui avaient déjà été contaminés, on voit ressurgir de nouvelles épidémies, presque toujours plus fortes, plus mortifères aussi et plus dangereuses. Donc on n'est pas débarrassé de cette maladie. On voit bien que on a une course contre la montre en ce moment avec la vaccination, mais le monde est extrêmement secoué par cette pandémie en ce moment.
En France, le gouvernement a détaillé les premières étapes d'un retour à la vie normale dès la mi-mai. Le pic de la troisième vague semble derrière nous, a déclaré le Premier ministre. Vous êtes d'accord ?
Alors, je suis d'accord que le pic semble derrière nous depuis très peu de temps. Disons que on arrive maintenant à la fin de la troisième semaine de confinement et il aura fallu au moins 2 semaines pour casser cette dynamique exponentielle. Donc on a affaire à une épidémie qui est plutôt plus difficile à vaincre que celle des 2 vagues précédentes. Et ça, c'est probablement aussi à mettre à l'actif de ces nouveaux variants, et notamment du nouveau variant britannique. Mais il est vrai que la pente est favorable désormais, qu'on est sur la descente et qu'on espère la plus longue et la plus rapide possible.
Mais le virus continuera de circuler. On compte en fait sur la campagne de vaccination pour casser définitivement la courbe des contaminations et sur les contrôles aux frontières pour les voyageurs provenant de pays à risque. Et là, en France, on ne pratique pas le confinement à l'hôtel comme l'Australie, l'Angleterre ou le Japon. Hein. On dit aux gens de s'isoler pendant 10 jours et puis on leur fait confiance.
Oui, on peut même donner l'exemple de Hong Kong. Hong Kong pratique des quarantaines assez sévères, assez strictes pour toutes les personnes venant de l'étranger qui sont de 3 semaines dans des hôtels où ils sont véritablement gardés, quasiment privés de liberté. Et ils ont pu voir lors d'un voyage arrivant, venant de New Delhi, il y a eu un cluster de 49 personnes contaminées et qui se sont révélées 12 jours après leur arrivée dans l'hôtel de confinement. Donc on voit bien que le contrôle sanitaire aux frontières est un élément clé de la stratégie de contrôle et de lutte contre cette pandémie si l'on veut éviter l'arrivée de ces variants, la circulation trop intensive de ces variants. On ne peut jamais être complètement sûr de ne pas laisser passer quelques cas, mais c'est vrai que ceux qui mettent en place des hôtels de confinement pour tous les voyageurs venant des zones à risque, alors ils s'assurent d'une bien meilleure protection que ceux qui font juste confiance avec des contrôles aléatoires sur les quarantaines.
Les écoles vont rouvrir chez nous à partir de lundi. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, C'est certain que la fermeture des écoles joue un rôle important dans le contrôle de cette vague pandémique, parce que on a pratiquement paralysé toute la vie des adultes, la vie sociale, la vie festive, la vie culturelle, la vie sportive, enfin le couvre-feu, et la vie des enfants avait été préservée, et leur éducation aussi, hein, grâce à l'ouverture des écoles. Les écoles étaient maintenues ouvertes aussi en Suisse d'ailleurs, et le fait de les avoir fermées là pendant les vacances scolaires, pendant les 3 semaines, a permis, comme on le voit, de reprendre le contrôle sur cette vague épidémique. Est-ce que les réouvrir dès lundi, en fait c'est que les écoles maternelles et primaires, hein, est-ce que ça va empêcher la poursuite de la décrue? Je ne le crois pas pendant en tout cas 1 ou 2 semaines encore, parce qu'on a une inertie qu'il faut bien voir et qui devrait se prolonger. Ensuite, si l'on reste à un plateau trop élevé, alors ce sera dommage, parce que si l'on veut vraiment passer un été beaucoup plus serein en Europe continentale, on a besoin que tous les pays arrivent à la décrue épidémique profonde, c'est-à-dire à moins de 5000 cas par jour en France. C'est peut-être un objectif qui sera atteint à la mi-mai, hein, mais si jamais il n'était pas atteint, alors probablement la réouverture des écoles aura été un peu prématurée. Elle peut aussi se faire, cette réouverture des écoles, dans le cadre d'un protocole sanitaire qui permet une bonne ventilation des salles de classe en particulier, parce que la ventilation doit être le point d'orgue de toute la politique de prévention, la ventilation des espaces intérieurs. Mais si on réussit cela, alors peut-être qu'on aura à la fois préservé l'éducation et permis à la situation sanitaire de se stabiliser.
Donc les fenêtres grandes ouvertes, malheureusement toutes les fenêtres ne s'ouvrent pas dans les écoles, mais ça c'est un autre problème. On fait une pause, Antoine Flahault, on se retrouve juste après.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Nous sommes toujours avec Antoine Flahault, qui dirige l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. On est toujours sur le cas de la France, Antoine Flahault. Les terrasses des cafés et des restaurants pourront peut-être rouvrir à la mi-mai. Alors, on ne nous a pas dit avec ou sans couvre-feu. Il faut rappeler que cela fait quand même 6 mois en France qu'on nous interdit de sortir le soir. Mais la réouverture des terrasses, des cafés et des restaurants, c'est dicté par le fait qu'aujourd'hui, on sait que la transmission se fait essentiellement par les aérosols qui restent dans l'atmosphère et que en extérieur, il y a très très peu de contamination en fait.
Oui, exactement. Je pense que c'est une mesure tout à fait raisonnable. On n'a pas jusqu'à présent, et pourtant il y a quand même une littérature scientifique très abondante sur le coronavirus, mais on n'a pas de cas documentés de transmission à l'extérieur qui soit convaincante. On peut nous rappeler l'épisode au bord du Gange des Indiens, mais ils étaient, le fait est, extrêmement nombreux, 5 millions de pèlerins au bord du fleuve, sans masque, etc. Mais c'est des événements très particuliers et pas non plus très convaincants, parce que ces 5 millions de personnes sont restées plusieurs jours, ont vécu dans des endroits fermés aussi, ont mangé ensemble, etc. Donc je pense que sur les terrasses, pourvu qu'on ait une certaine distance les uns des autres, puisqu'on ne peut pas mettre de masque, la probabilité de transmission du coronavirus est extrêmement faible, extrêmement limitée. Donc c'est une bonne mesure que de promouvoir les activités à l'extérieur. Plus on se rencontrera à l'extérieur et moins on se contaminera.
Mais ce masque que l'on porte ici depuis 8 mois en extérieur, hors de chez soi, qu'est-ce qu'il justifie encore ?
Le masque à l'extérieur n'a pas beaucoup de justificatifs. Quand vous êtes très près d'une personne qui est en face de vous directement et qui vous parle, elle peut vous postillonner au visage et il se peut à ce moment-là que vous soyez contaminé. Je dis cela presque un peu au conditionnel parce que ça n'a pas été non plus très documenté. Encore une fois, c'est vraiment la voie aérosol dans les milieux intérieurs qui est la voie
Mais c'est vrai que jusqu'à présent, tout ce qu'on dit, c'est que la voie directe, en fait, ce serait infime.
Oui, la voie directe, vous savez, les cibles, c'est les conjonctives oculaires, les narines, la bouche lorsqu'elle est ouverte. Donc ce sont quand même des cibles très étroites. Il faut être un bon viseur hein, pour postillonner
De même, les surfaces infectées, en fait, on s'aperçoit qu'il y a très très peu de charge virale et que donc là non plus, ça n'est pas une véritable voie de transmission.
Non, les surfaces infectées nous ont un peu trompés parce que on a trouvé du virus vivant sur ces surfaces infectées, y compris parfois assez longtemps après leur infection. Donc on se dit, s'il y a du virus, ça peut être une source d'infection. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne faut pas un virus pour se faire contaminer, il ne faut pas quelques virus vivants, il faut quand même baigner. C'est pour ça que quand vous disiez, on va aux toilettes, on va payer, oui, mais vous n'y restez pas longtemps. Vous allez mettre votre masque. On va essayer de ne faire en sorte que les gens qui payent, comme vous le dites, ne s'entassent pas auprès du comptoir. Donc je pense que ce ne sont pas des gestes très dangereux ou des attitudes très dangereuses. Il faut raison garder. C'est vraiment quand on reste pendant des heures, une heure, deux heures de repas dans un restaurant, malheureusement, s'il est mal ventilé, c'est un endroit à risque. Sur une terrasse, ça ne le devient plus. Mais quand vous traversez un commerce, quand vous traversez un couloir pour aller aux toilettes, même s'il y a, c'est possible hein, qu'il y ait un petit nuage qui flotte résiduel avec du coronavirus, vous ne risquez pas d'être contaminé de façon très importante.
Espérons que nos gouvernants vous entendent, Antoine Flahault, mais continuons. On l'a dit, on compte essentiellement sur la vaccination, mais enfin, elle a son rythme, la vaccination, et puis de toute façon, on n'arrivera pas à vacciner tout le monde. Il y a encore des gens qui n'ont pas envie d'être vaccinés, et il ne faut pas prendre l'habitude, vous l'avez dit, de vivre avec le virus. Donc, il va falloir continuer de dépister, par exemple. Le dépistage doit être efficace. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Alors, le dépistage, le cas si jamais on utilisait des tests de façon très systématique, sans aucun symptôme, un peu comme on se lave les dents le matin, une ou deux fois par semaine, on utiliserait des tests. Alors, c'est ce qui se fait par exemple pour les écoliers britanniques. Ils ont une très faible circulation de virus, ils sont en pleine décrue. Hein. La vie va reprendre comme avant en Grande-Bretagne dans ces prochains jours et ces prochaines semaines. Mais ils se testent avec un dépistage systématique. Ce n'est pas encore très évalué sur le plan scientifique parce qu'on a encore peu de recul sur ces tests, mais il semble qu'il y ait une grande vertu à ces tests parce que les enfants, avant d'aller à l'école, s'ils se savent positifs, eh bien, ils ne vont pas aller à l'école. Ils ne vont donc pas contribuer à fermer la classe, à fermer les écoles encore. Et au contraire, ils vont rester chez eux, ils vont s'isoler. Et peut-être même, on va comme ça casser des chaînes entières de transmission. Donc oui, moi, je suis très, très favorable à ce dépistage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable politique de dépistage, à ma connaissance, encore en France.
Tester, isoler, tracer, c'est ce que disait l'OMS depuis le début de la pandémie. Alors justement, le traçage, vous parliez des 5000 cas par jour, on en rêverait hein, d'être en dessous de 5000 cas par jour, mais on l'a été, et c'est seulement en dessous de 5000 cas par jour qu'on peut identifier toutes les chaînes de transmission et donc les casser. Mais quand on est à 30 000 ou 40 000 cas par jour, tracer, ça n'a pas de sens.
Non, ça a moins de sens parce que ça a eu un peu de sens quand en Moselle on a pu découvrir l'origine du cluster de variants sud-africains qui, je crois, était dû à un militaire revenant de la Réunion. C'était très utile. On peut donc, même quand il y a beaucoup de cas, essayer de faire ces recherches, mais c'est vrai qu'il faut absolument arriver à cette décrue profonde parce que là on peut rechercher toutes les chaînes de transmission sans aucune exception. L'Australie, qui ne voit qu'une quinzaine ou une vingtaine de cas par jour, fait cela. Elle recherche absolument toutes les chaînes de transmission. Et si vous faites cela, vous pouvez casser les chaînes de transmission, comme vous disiez, en isolant les gens, parce qu'il faut aussi bien isoler les gens, comme on a dit au départ. Et ça peut être extrêmement rentable. Mais c'est vrai qu'avec 30 000 cas par jour, c'est un exercice un peu de titan ou de bénédictin, je ne sais pas comment il faut dire. Mais il faut juste espérer que lorsque l'on aura une décrue suffisamment prononcée, alors on pourra reprendre la main parce que les autorités sanitaires s'occuperont de toutes les chaînes de transmission. Et à ce moment-là, on peut avoir une vie normale. On peut même tomber le masque. C'est ce que font les New-Zélandais, c'est ce que font les Taïwanais ou les Australiens parce que il n'y a plus de circulation du virus dans la communauté.
Merci Antoine Flahault. Je rappelle que votre livre vient de paraître. Il s'intitule « Covid, le bal masqué ». Il est paru chez Dunod. On se retrouve juste après une pause avec Iris Bray. On va parler du regard féminin. Au revoir Antoine.
Au revoir, merci.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Bonjour Iris Bray.
Bonjour.
Vous êtes docteur en études cinématographiques de l'Université de New York. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialisée dans le cinéma et les séries. Et vous publiez Le regard féminin, une révolution à l'écran chez Point. Un livre alors que j'ai trouvé très très important pour comprendre ce que l'on appelle au cinéma ou dans les séries le male gaze et le female gaze. C'est-à-dire en gros, en français, le regard masculin et le regard féminin. Alors ça ne dépend pas du tout du fait que le film ou la série est réalisé par un homme ou par une femme. Tous les hommes sont différents, les uns des autres, et les femmes aussi. Au fond, c'est une question de point de vue, mais c'est un point de vue qui change tout.
Oui, c'est ça, c'est une question de mise en scène et de quel point de vue, en fait, à qui on a accès quand on regarde nos films et nos séries. On regarde à travers le regard de quel personnage l'histoire, et ça change en fait la manière de percevoir les rôles genrés au cinéma.
En effet, puisque dans la plupart des cas, on regarde à travers le regard masculin, dans la très grande majorité des films et des séries depuis un siècle. Le regard féminin, c'est beaucoup plus rare. Vous donnez des exemples à toutes les époques, parce qu'il y en a eu à toutes les époques, depuis Madame a des envies, un fameux court-métrage d'Alice Guy, qui est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, qui a raconté des histoires, qu'on retrouve aussi dans Thelma et Louise de Ridley Scott, qui est un homme, ou dans Elle de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, qui est également un homme.
Oui, c'était important pour moi de montrer que ce regard féminin que j'essaye de théoriser, c'est pas quelque chose qui vient après MeToo, c'est pas quelque chose qui est à la mode, c'est quelque chose qui existe depuis le début du cinéma. Seulement, comme ce regard féminin nous place dans la peau de l'héroïne, dans les expériences du féminin, souvent ces œuvres-là, elles font pas partie de notre histoire, elles ont été parfois invisibilisées, et c'était important pour moi de créer une espèce de lignée entre tous ces films qui mettent en avant les expériences du féminin.
Et vous invitez véritablement à expérimenter. Et en fait, j'invite tous nos auditeurs à le faire, c'est-à-dire à regarder un film en se posant la question si c'est le regard du personnage masculin ou le regard du personnage féminin qu'on nous demande d'endosser. J'ai fait l'expérience que vous encouragez en regardant Wonder Woman, par exemple. Le début de Wonder Woman, donc un film de super-héros. Et tout à coup, j'ai vu ce que vous décriviez. Oui, effectivement, j'ai compris ce que c'était que le regard féminin à ce moment-là. Si vous pouvez raconter ce qu'on voit au début de Wonder Woman.
Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé moi-même en tant que spectateur. En fait, le début de Wonder Woman, on est dans une île où il n'y a que des femmes et que des femmes qui sont en capacité d'agir et qui existent en fait en dehors d'un regard masculin. Il n'y a pas d'hommes qui les regardent dans cette île et en fait, elles interagissent entre elles, elles fendent les airs et c'est tous ces corps en fait qui sont en capacité d'agir et de se défendre m'a particulièrement en fait émue et je dirais même ébranlée parce que je me suis rendu compte que c'était la première fois que je voyais au cinéma pendant une vingtaine de minutes que des corps de femmes qui parlait, qui bougeait, qui se racontait des choses et qui était aussi une mise en scène de la sororité, cette capacité d'entraide entre les femmes et qui était un geste politique et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça sur un écran.
Alors vous le théorisez dans ce livre, ce regard féminin, sur le plan narratif d'abord, il faut que l'histoire, vous l'avez dit, soit racontée du point de vue du personnage féminin et qu'il soit donc sujet et pas objet, objet de regard, objet de désir, objet de récit.
Absolument. C'est-à-dire que, en fait, on a tellement l'habitude de voir des personnages féminins qui sont soit perçus comme des objets un peu fétichisés qu'on admire de loin, ou alors juste des personnages qui n'existent quasiment pas, qu'on oublie que les personnages féminins peuvent aussi avoir leurs propres histoires et les raconter avec leurs propres mots.
C'était le cas de Thelma et Louise, qui a été une petite révolution aux États-Unis, parce que tout à coup, on l'a dit, les deux personnages féminins, les deux filles avaient les clés de la bagnole. C'était la première fois quasiment.
Je pense que c'est vrai que c'est un film qui a énormément marqué les esprits parce qu'il y avait ces deux femmes qui pouvaient faire ce qu'elles voulaient et en fait c'était leur trajectoire vers cette autonomie de corps et comme vous l'avez dit c'est un homme qui filme Thelma et Louise même si le scénario c'est une femme qui le signe, c'est Kali Khoury donc c'est tout ça pour dire que c'est vraiment ce qui m'importe dans le regard féminin c'est pas la personne qui réalise ou la personne qui scénarise mais vraiment nous spectateurs ce qui se passe quand on ressent ces expériences du féminin qui sont encore minoritaires sur nos écrans.
Alors sur le plan formel, il faut que grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice ressente l'expérience féminine. Il ne faut pas qu'on garde nos distances au fond avec ce que ressent à ce moment-là le personnage féminin.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui sont des très beaux portraits de femmes. Et c'est pas la même chose pour moi, le portrait de femme, que le regard féminin. C'est-à-dire que pour moi, le regard féminin, il faut que la caméra nous permette de plonger à l'intérieur de l'expérience. Donc qu'on soit dans le corps ou dans la tête de l'héroïne et qu'on ait l'impression d'accéder en fait à ce qu'elle traverse réellement. Et pour moi, c'est quasiment une expérience charnelle de cinéma où l'écran de cinéma devient presque comme une peau et on ressent en fait tout ce que cette héroïne traverse.
Alors vous citez un très bon exemple qui est celui d'Extase, le film de Gustave Machati qui date de 1933, un film qui est resté célèbre parce que Hedy Lamarr, grande star du cinéma, y a interprété le premier orgasme féminin du cinéma. Et vous dites que dans ce film-là, il y a un véritable regard féminin, justement, ce qui est très rare.
Oui, voilà. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde dans l'histoire du cinéma, on trouve certaines œuvres, mais c'est vrai que le plaisir féminin, et en tout cas l'orgasme féminin, ça reste assez rare comme expérience, en fait, sur nos écrans. Et souvent, quand on représente des scènes de sexe, elles sont toujours du point de vue du héros et elles se terminent avec la jouissance masculine. Et finalement, on s'habitue à ce que le corps féminin soit assez passif. Et donc, moi, ce que j'appelle, c'est une révolution du regard, mais aussi une révolution du désir qui pourrait éclore aussi en dehors des schémas de domination et de voyeurisme auxquels en fait on s'est toutes et tous habitués. Donc c'est pas d'effacer tous ces films qui nous proposent une vision du plaisir à travers la domination, mais c'est de se dire qu'il y a d'autres régimes d'image et d'autres régimes de regard où le plaisir peut éclore autrement.
Au fond, ça ouvre tout un nouvel imaginaire, dites-vous. Ça créerait à l'écran des images totalement inédites. Et pas seulement dans les scènes érotiques, d'ailleurs. C'était le cas de montrer une femme enceinte, comme dans la série Smilf, par exemple. Montrer une femme enceinte du point de vue de la femme, du point de vue de la femme enceinte, c'est au fond très très rare. C'est juste dans cette série-là et c'est très drôle.
Oui, et par exemple en France récemment, on a eu le film Énorme de Sophie Le Tourneur et ça m'a beaucoup intéressée ce film parce qu'il y a une scène d'accouchement et la réalisatrice a décidé d'alterner entre des scènes de documentaire et des scènes de fiction. Donc elle est vraiment allée dans une maternité filmer des accouchements pour s'approcher au plus près en fait de la réalité. Et ce dont je me suis rendu compte en écrivant le regard féminin, c'est que quand les réalisatrices et les réalisateurs essayaient de s'approcher des expériences du féminin, que ce soit comme corps social ou comme corps biologique ou comme corps collectif, souvent ils inventaient des manières de filmer, ils réinventaient les codes formels. Donc Alice Guy, par exemple, réinvente le gros plan à des fins dramatiques dans Madame à ses envies. Dorothy Arzner invente la perche parce que sa comédienne bouge trop vite et qu'elle a besoin de la suivre. Donc très souvent dans l'histoire du cinéma, quand on regarde à travers le prisme du regard féminin, on voit qu'il y a beaucoup d'inventions formelles qui sont liées à ce désir de s'approcher des expériences du féminin.
Conclusion, on croit que l'on a tout montré au cinéma, mais non, il y a des images qui manquent, et dans presque tous les domaines, et il ne suffit pas d'être féministe pour produire du regard féminin, il faut une démarche consciente, le désir au fond de produire un autre regard, un nouveau regard.
Oui, je pense que c'est très important. En fait, il faut qu'on se pose la question des personnes aussi qui racontent leurs histoires. Et c'est ce qu'on disait au début, en fait, à quel point de vue est-ce qu'on a accès? Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'histoires qui n'ont pas été racontées. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Et ça, je pense que c'est très réjouissant de se dire que dans les décennies à venir, il va y avoir un renouveau de la forme, des formats et de la narration.
Merci Iris Bray. Le regard féminin, une révolution à l'écran, c'est paru chez Point. Voilà un livre tout à fait original et tout à fait intéressant. Juste après une pause, on retrouvera le grand historien Marc Ferraud qui vient de nous quitter à l'âge de 96 ans.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Et l'on retrouve bien vivant le grand historien Marc Ferraud. Il vient de nous quitter à l'âge de 96 ans. La dernière fois que je l'avais reçu sur Europe 1, il m'avait parlé de son intérêt pour le cinéma.
Le cinéma est un indicateur d'alerte. C'est-à-dire que, grâce à l'imaginaire, il nous dit des choses que les sciences dites objectives ne nous disent pas. Et pour l'histoire, c'est évident. Par exemple, il n'y a pas de doute que Kazan nous montre comment fonctionne un syndicat, ce que ne disent pas les livres sur le syndicalisme.
Le film en question, c'était Sur les quais, film d'Elia Kazan avec Marlon Brando.
Oui, c'est un exemple. Bon. En éclair, nous montre que les ouvriers font la grève, revendiquent, ne sont pas contents, mais qui ne sont pas révolutionnaires dans la nouvelle liberté. Et ça, on ne le dit jamais. On ne l'écrit jamais dans les livres d'histoire. Je peux continuer. Mikhalkov en Russie, par exemple, et Visconti pour le nazisme, l'un le communisme, l'autre le nazisme, nous montrent que, à sa façon, toute la société est plutôt complice de toutes sortes de choses, et pas seulement le parti, ou pas seulement le chef, ou pas seulement le militant. Et évidemment, c'est désagréable à tout le monde. Ainsi, le cinéma est un décodeur de ce que l'institution ne dit pas. Et c'est pour ça qu'il nous passionne, parce que c'est lui qui nous montre, au fond, une vérité qu'on ne nous est pas nous expliquer scientifiquement ou pédagogiquement. Et c'est pour ça que c'est une ressource incroyable et que, d'une certaine façon, il faudrait presque apprendre la vérité sur l'histoire avec du film ou de la poésie.
Marc Ferro était l'un des grands historiens de la colonisation. Je lui avais demandé, c'est quoi la colonisation ? Peut-on s'entendre sur une définition ?
Il y a une définition scolaire, mais pourquoi pas ? On peut partir de là. C'est quand une puissance installe des colons à elle dans une terre étrangère pour la dominer et pour en profiter. En gros, c'est ça au départ. Sauf que les objectifs sont cachés, puisque au départ, c'est pour les christianiser, n'est-ce pas ? Pour l'Occident, puisque c'est l'Occident qui a colonisé. On parle de cette colonisation-là, hein, pas celle des Grecs. Et ensuite, c'est au nom, entre guillemets, de la civilisation. Donc, il y a chaque fois un alibi, n'est-ce pas, qui sert de justification, mais qui est assumé par beaucoup de gens et très longtemps. Je lisais encore un texte avant-hier, par hasard, où il y a eu une première exposition, un zoo humain, en 1910, quelque chose comme ça. On demandait à un monsieur, mais pourquoi ces Noirs sont-ils là ? Il répondait, ben, ce sera pour nous servir. Donc, la fonction de la colonisation a toujours été fondamentalement celle-là. Bon. Seulement, il y a quelque chose de nouveau, et c'est pour ça que ce livre a été un peu écrit, c'est que quand il y a eu l'éveil des colonisés, il y a 50 ans, mettons 60 ans, encore que...
C'était déjà avant,
vous racontez. Ils se sont défendus dès l'origine. Mais enfin, quand ça a été...
La vague des indépendances, voilà. On va dire.
On peut dire qu'il y avait une révolte décolonisée, mais les métropoles, au fond, n'en savaient rien. Elles étaient indifférentes. À mon âge, je me rappelle très bien que, oui, on a parlé d'un procès sur les Malgaches. Il y avait une révolte à Madagascar. Et puis, il y avait après les événements d'Algérie, n'est-ce pas ? Et puis, un ou deux eaux, comme ça, mais après, rien ne se passait. Alors que maintenant, il n'y a plus de colonies, il n'y a plus de colons, il n'y a plus de métropoles, mais les affres des problèmes coloniaux sont ici. C'est aujourd'hui qu'ils sont là.
Chez nous.
Chez nous. C'est-à-dire que c'est, en quelque sorte, l'héritage de la colonisation qui pèse plus lourd sur les colonisateurs que la colonisation elle-même.
Au XVIe siècle, la colonisation a un but à la fois commercial et religieux. Mm-hmm. C'est ce qui caractérise toutes les entreprises coloniales, on va dire de la première ère colonisatrice, aussi bien chez les Espagnols et les Portugais qui sont les premiers, que chez les Français et les Anglais qui les suivent de peu. Mais on pourrait aller jusqu'aux Russes,
ah,
ensuite,
les Russes,
qui s'y
non.
mettent. Les Russes, c'est pas religieux.
Non, non. Les Russes, au début, c'est pour avoir... Le tsar veut avoir des sujets qui payent des impôts. C'est
voilà,
tout. Alors plus il y a de sujets, plus il y a d'impôts.
D'où les millions de kilomètres carrés.
Voilà, plus il y en a, mieux ça vaut. Mais alors, pour les Russes, il se passe quelque chose qu'on ne voit pas assez, je crois, aujourd'hui. C'est que les Russes ont toujours été, entre guillemets, fiers d'être un État très vaste, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez tous, puisqu'on l'a vu à la télé, dans le cinéma, partout, qu'au moment de la bataille de Moscou, Joukov dit « Oui, mais la Russie est grande ». Et le fait est qu'ils avaient su, derrière l'Oural, faire des armes plus perfectionnées que les Allemands, ce qui était incroyable pour les Allemands, et puis pour tout le monde, hein. Et d'en avoir encore plus aussi que les Allemands, ce qui est incroyable pour les Allemands et puis pour tout le monde. Donc cette Russie grande était pour eux un objet de sérénité. Or ça se retourne. Maintenant qu'elle est très grande, la Russie est menacée. Parce que toutes ces colonies du Sud, ce sont maintenant des pays islamiques, sunnites presque tous, sauf un, n'est-ce pas ? Et à l'intérieur, elle a des tas de colonies, un peu comme si nous, la Bourgogne, était musulmane, vous voyez ? Et sans parler, bien sûr, du Caucase, hein, qui est leur Algérie, un peu. C'est l'Algérie des Russes, en gros. Donc, d'une certaine façon, les Russes se sont surmenacés, alors que nous, nous voyons surtout qu'ils veulent récupérer l'Ukraine ou la Crimée, ou ceci, ou cela. Et ça crée un gros malentendu sur la manière de gouverner ce pays, où, contrairement à ce qu'on imagine, les Russes sont très divisés, parce que les uns veulent la revanche, récupérer tout ce qu'ils ont perdu, et les autres jugent que maintenant, il faut qu'ils conçoivent une autre histoire.
Il y a une nouvelle ère coloniale qui va s'ouvrir au XIXe siècle, que vous appelez, qu'on appelle l'impérialisme. Alors en quoi est-elle différente du XVIe siècle? Parce qu'au XVIe siècle, c'était déjà de la domination politique, économique, culturelle, c'était déjà raciste, c'était déjà paternaliste, puisqu'il s'agissait de convertir, d'évangéliser des populations qui ne l'avaient pas encore été. Au fond, quelle est la véritable différence pour vous, Marc Ferraud?
D'abord qu'à l'époque du XIXe, il y a une sorte de concurrence à celui qui en aura le plus.
Entre la France et l'Angleterre,
notamment. En général.
Avec les Allemands aussi.
Oui, avec tout le monde.
Et même avec l'Empire ottoman, qui lui aussi est une puissance colonisatrice.
Auparavant, on en voulait plus que les Anglais au Canada parce qu'ils étaient protestants et nous catholiques, etc. Oui. Mais ailleurs, ce qui change, c'est autre chose. Ce qui change, c'est que chacun en veut plus que l'autre. Au point d'acquérir même des déserts. La France, le Sahara, les Allemands, le Kalahari, les Anglais, l'Australie, soit. Il faut tout couvrir pour se garantir, prévenir le manque à gagner. Et ça crée des violences qui durent jusqu'à aujourd'hui.
Y compris entre les puissances colonisatrices, évidemment.
Ah bien sûr. Et puis, c'est ce qui explique la guerre de 14.
On retrouve Marc Ferraud dans un instant, juste après une pause.
Europe 1, 9h, 10h. C'est arrivé demain.
On retrouve le grand historien Marc Ferraud qui vient de nous quitter à l'âge de 96 ans. Toujours à propos de la colonisation, nous parlions du 19e siècle. Les colonisateurs n'étaient plus des aventuriers à l'époque, comme au temps de Christophe Colomb, mais c'était toujours aussi violent d'après lui. C'était raconté dans les journaux de l'époque, on ne s'en cachait pas, on en était même fier.
Moi je m'en rappelle très bien, jeune professeur, que je disais que Bugeaud a brûlé tous les Douars un par un et que Gallieni a passé à l'épée des Malgaches et qu'au Vietnam, il y avait des sacs dans lesquels il y avait les têtes d'anamides coupées et que les Anglais mettaient, etc. Tout le monde connaît ça. Ça choquait personne. J'ai jamais été choqué. Moi qui étais un anticolonialiste en quelque sorte professionnel, pendant 10 ans.
Mais vous n'étiez pas à l'époque de Gallieni et de Bugeaud, vous vieillissez pas tant que ça.
Bon, moi qui étais un anticolonialiste professionnel en Algérie, n'est-ce pas, libéral, comme on disait là-bas, je disais ça comme ça. Et j'ai eu une prise de conscience, bien sûr, avec mes élèves d'une façon ou d'une autre. Mais je veux dire que c'était. Bon, il fallait faire ça, disaient les livres, et les profs, leurs défauts à tous, et moi y compris, au moins jusqu'à cette date-là, c'est que mon problème, c'était de savoir ce que je devais dire à partir de mes livres. Il n'y avait pas de regard critique sur ce que j'enseignais. Et c'est mon séjour aux colonies qui m'a appris à avoir un regard critique. Il faut que je vous raconte. Un jour, je disais, en Algérie, il y a une montagne, des plateaux, et puis ce désert. Dans le désert, il y a des nomades. Et ils empêchent les sédentaires en nord de travailler. Et un petit arabe, dans le fond de la classe, me fait non. Alors, à la fin de la classe, je l'appelle. Et je lui dis, pourquoi vous m'avez fait non? Mais monsieur, parce que nous, dans le sud, on est bien plus malins. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, quand on nous oblige à travailler dans le nord, nous, dans le sud, sur nos chameaux, on file. Autrement dit que pour nous, les sédentaires, c'est le positif, les nomades, le négatif. Alors que dans toute civilisation, c'est le nomade qui est le positif parce qu'il est libre, et c'est le sédentaire qui est esclave. D'un seul coup, il y avait plusieurs visions de l'histoire qui se... C'est la première fois que j'ai réfléchi, si j'ose dire.
Et pourtant, vous dites bien que l'anticolonialisme est aussi ancien que le colonialisme, pratiquement.
Oui, mais
Las Casas, dès le XVIe siècle, fait une véritable critique du colonialisme, comme Clémenceau, au moment où Jules Ferry, lui, est colonialiste, Clémenceau est anti,
Oui, mais l'anticolonialisme, depuis le début de Las Casas jusqu'à d'autres raisons après, quand Las Casas est scandalisé des horreurs qu'on commet en Amérique du Sud, eh bien, ils pensent aux crimes que commettent les chrétiens. C'est un crime qu'ils ont commis eux, les Espagnols. Et c'est ça qu'il faut corriger, ils deviennent des criminels. Mais on ne s'occupe pas des Indiens. Bon, rappelez-vous, au moment de la guerre d'Algérie, c'était la même chose, chez nous, en 1950 ou quelque chose comme ça. Tous les comités qu'il y a eu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui condamnait? L'action du gouvernement, la torture, tout ce qui se passait dans les prisons et compagnie. Mais on ne demandait pas l'avis des musulmans sur ce qu'ils voulaient pour leur avenir. C'est le même problème, n'est-ce pas? Donc chaque fois, l'anticolonialisme est dirigé contre les crimes, non pas qu'on commet, mais que notre communauté commet et qui nous font perdre notre âme quand on est chrétien. Ou ce qu'est la République quand on est républicain. Rappelez-vous les 121,
Le manifeste des 121.
Et oui, il disait pas qu'est-ce que les Algériens demandent exactement. Pas une seule fois, on voit qu'on s'intéresse à ce que peuvent revendiquer les colonisés.
Alors quand on vous lit, quand on lit La colonisation expliquée à tous, Marc Ferraud, on s'aperçoit que les États-Unis, qui se flattent toujours de n'avoir jamais colonisé qui que ce soit, et qui ont été d'ailleurs des ennemis du colonialisme français et anglais après la Seconde Guerre mondiale, en réalité ont colonisé les provinces mexicaines, ça on le sait, la Nouvelle-Calédonie, enfin la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, ils ont piqué quand même un tiers du Mexique aux Mexicains sans leur demander leur avis, l'Alaska qu'ils ont acheté aux Russes, mais ils n'ont pas demandé leur avis aux indigènes, savoir s'ils avaient envie de devenir américains. Il y a eu la conquête militaire d'Hawaï, des Philippines, ils sont restés américaines jusqu'en 1946, de Porto Rico, Panama est une création américaine, une colonie américaine au fond. Haïti a été envahie par les Américains, et puis il y a la domination progressive des États latino-américains, mais là on ne peut plus parler de colonie tout de même.
Non, c'est le type nouveau, le type américain de domination qui passe par les capitaux et par... Les Américains ont su faire une colonisation sans drapeau. Je me rappelle très bien qu'en Indochine, où j'ai fait des laïus il y a quelques dizaines d'années, j'étais surpris de voir que les Vietnamiens, alors que j'en connaissais en France, j'avais eu un professeur vietnamien de philosophie, élève de Merleau-Ponty, et je me rappelle très bien qu'ils parlaient presque tous anglais. Et à mes collègues vietnamiens, donc à Hanoï, je dis, écoutez, j'ai quelque chose me surprend. Il y a eu une guerre d'Indochine, il y a eu ensuite une guerre du Vietnam. En France, on a manifesté contre les bombardements américains lors de la guerre du Vietnam, en 73 ou quelque chose comme ça, soit. Et vous semblez être beaucoup plus pro-américain. Et les Français, ça va pas. Alors je lui dis, mais pourquoi? Et il me répond, ben c'est tout simple, cher collègue. Les Américains avec leurs bombes, on ne les voyait pas. Tandis que vous, il fallait cirer vos chaussures tous les matins.
Une dernière question pour boucler la boucle. Ce n'est pas une histoire terminée, aujourd'hui, la colonisation.
Ah ben non.
Puisque vous le dites, maintenant, les problèmes sont chez les colonisateurs.
Ils sont chez les colonisateurs. Et ce qui est tragique, c'est que quand ils sont révoltés contre les Européens, les colonisés avait utilisé en quelque sorte notre discours des libertés. Il citait Voltaire, il citait Rousseau, les Anglais Locke, etc. Bon, c'est fini. Et vous remarquez que c'est fini partout. Je veux dire que les FLN et autres que j'ai connus ou pas...
Le FLN, c'était en Algérie.
En Algérie, n'est-ce pas? Le jour de l'indépendance, ils avaient déjà été chassés par des gens qui seraient plus tard intégristes. Ça, c'est l'Algérie. Je continue. En Iran, c'est Khomeini et le Parti Tudé communiste qui ont fait la révolution. Les communistes ont disparu. Bon, je continue. Dans les pays de l'Est, ce sont des gens au nom des libertés qui ont fondé Solidarność ou qui ont été des contestataires en Russie. Vous voyez, depuis, ils ont tous disparu. En Pologne, comme en Tchécoslovaquie, comme ailleurs.
Et ils ont été remplacés par qui?
Ils ont été remplacés par des gens qui combattent au nom de l'identité. On le voit en Pologne aujourd'hui, on le voit en Hongrie aujourd'hui, on le voit en Inde aussi aujourd'hui, où Gandhi et Nehru avaient Locke à la main, et maintenant c'est un parti hindouiste qui veut complètement ignorer les valeurs d'Occident. Autrement dit, ce sont hélas les valeurs identitaires qui ont pris le dessus sur les valeurs des Lumières. Et ça, c'est tragique.
C'était l'historien Marc Ferraud en 1996. Il nous a quittés mercredi dernier. C'est arrivé demain, arrive à son terme. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques minutes, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël. Valérie Pécresse, c'est votre invitée?
Oui, Valérie Pécresse, présidente de l'Île-de-France, qui n'a pas l'intention de participer au concours Lépine de protection des commissariats. Elle a des propositions très fortes sur la sécurité.
Merci Mickaël, bonne émission.